Radio-Canada, audio.
Est-ce que tu te souviens de l'épisode Troubles alimentaires?
Oui, il y a une photo de toi, elle est un peu traumatisante.
Oui, la photo est quand même traumatisante.
Ouais. T'as 10 ans, c'est ça?
Je pense que c'était comme quand j'avais 9 ans à peu près.
Mon Dieu.
Je me rappelle d'être allée, c'est ça, je me rappelle de maman qui pleure puis qui est comme « faut que tu manges, je vais t'amener chez le médecin ». Puis elle m'amène chez le médecin. Je me rappelle que le médecin comme m'ausculte. Puis là, il me dit « C'est vrai que t'es vraiment maigre. » Il me pèse. Puis il me dit « Si tu prends pas 5 livres, je te revois dans 2 semaines. Puis si t'as pas pris 5 livres, je t'envoie dans un institut. »
5 livres en 2 semaines?
Ouais. Mais j'ai réussi, je les ai prises.
Bel accompagnement.
Je suis retournée. Il m'a dit « Bon, c'est beau, t'as pris 5 livres, retourne chez vous. Puis merci, bonsoir. » Mais moi, ce dont je me rappelle, c'est d'être devant mon assiette puis de trouver ça dégueulasse puis de vraiment pas avoir faim. Je me disais pas, je fais ça pour maigrir. Mm. Je me disais jamais, ah, j'ai faim, j'ai tellement faim, mais je vais pas manger.
J'avais pas faim. Ah, mon Dieu, mais c'est intéressant, ça, j'avais pas cette donnée-là. Je veux dire, est-ce que c'est des rigidités? T'sais, tu dis que ça t'écœurait ce qu'il y avait devant toi dans ton assiette. Peut-être que ça part vraiment de ça. Au-delà de l'apparence, je veux dire, je pense que t'as un trouble alimentaire qui ne s'est jamais guéri depuis probablement ce moment-là. Là.
Définitivement.
Apparaître, la neurodivergence invisible. Épisode 3, l'errance diagnostique. La neurodivergence, même si c'est une grande force à plein d'égards, ça peut aussi venir avec certains enjeux préoccupants, ou même les causer. Il y a des études qui commencent à faire des liens entre neuroatypie et d'autres problèmes de santé comme les troubles digestifs, les troubles des conduites alimentaires, les troubles hormonaux ou les maladies auto-immunes, même si certaines corrélations relèvent encore de la spéculation. Ça peut faire en sorte que les personnes neuroatypiques, particulièrement les femmes ou les personnes de la diversité de genre, elles ont souvent accumulé plusieurs hypothèses ou même plusieurs diagnostics au cours de leur vie, sans qu'on fasse le lien avec la neurodivergence. Une corrélation qui apparaît claire, par contre, c'est que de la neurodivergence semble souvent découler des problèmes de santé mentale, notamment à cause du camouflage, de l'intériorisation des traits ou de la fatigue cognitive. J'en ai parlé avec la neuropsychologue Éliane Chevrier.
Il y a effectivement des différences au niveau de la prévalence de troubles de santé mentale. Si je suis neuroatypique, il y a plus de risques que j'ai aussi associé un trouble de santé mentale. Par exemple, il y a des études qui nous montrent, admettons qu'à peu près 30 % des enfants TDAH vont aussi avoir un trouble anxieux et ou un trouble dépressif. Alors, à l'âge adulte, la proportion, tout dépendant des études encore là et des groupes, mais c'est la même chose aussi pour le trouble du spectre de l'autisme, où dans l'enfance, on trouve beaucoup plus de troubles dépressifs, anxieux, de troubles de la dysphorie du genre, là, de voir si c'est un trouble ou non, là, aussi, tout dépendant de la nomenclature, des troubles des conduites alimentaires. Alors, oui, il y a plus de troubles associés. On a une sensibilité. Avoir un neurodéveloppement atypique, c'est en soi un facteur de risque.
Il peut donc y avoir un lien entre neurodivergence et troubles de santé mentale. Mais ce qui est intéressant, c'est que le genre peut aussi amplifier cette prévalence.
Dans la population normale, il y a plus de troubles de santé mentale chez la femme que chez l'homme. Alors, cette proportion-là est au moins la même quand on parle des personnes neurodivergentes où les femmes ont plus de troubles donc de santé mentale associés. On n'a pas toutes les mêmes hormones, etc. Donc, il y a des aspects comportementaux, que ce soit dans l'impulsivité, dans l'opposition, dans l'anxiété, qui sont pas les mêmes chez les garçons que chez les filles. Donc, il y a des fois, on va dire, des problèmes intériorisés plus fréquents ou plus importants chez la fille ou la femme, ce qui amène plus d'enjeux au niveau de la santé mentale chez la fille que chez le garçon.
Si le lien est aussi fort entre neurodivergence et troubles de santé mentale, il y a quand même une différence majeure entre les deux. La neurodivergence, c'est présent dès la naissance, tandis que les troubles de santé mentale se développent au courant de la vie, souvent pendant l'adolescence.
Si c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est que c'est présent dans l'enfance, par définition. Cela étant dit, ça se peut que mon trouble soit léger, puis que je compense, puis je pallie, puis ça va. Puis parce qu'au primaire, ben, c'est assez facile pour moi, puis le cadre ne demande pas trop d'autonomie ou d'organisation, je m'en sors. Au secondaire, ah, OK, ça va au début, finalement. Secondaire 1, c'est un peu rushant, je m'adapte. Secondaire 2, ça va. 3, 4, ouf, OK, les maths, c'est un autre game. Les exigences de l'environnement devenant beaucoup plus importantes au niveau des fois social, de la déduction, des inférences, de l'autonomie, peut faire en sorte que les lacunes que j'ai, on les voit pas quand je suis petite, mais on les voit quand ben, j'en ai besoin. Là, sois autonome, parce que là, tu prends l'autobus, tu dois te rendre à ton rendez-vous, à l'heure, te repérer, et là, ben, t'as pas ta mère, t'as pas ton prof, t'as pas personne, paye ton budget, vis ta vie. T'sais? Alors, cette autonomie-là peut faire voir ou mettre en lumière des difficultés qui étaient là, peut-être légères ou peut-être compensées.
Vers la fin du secondaire, c'est là que les difficultés ont commencé à se faire sentir pour de vrai, là, que je pouvais pas juste, on dirait, compenser avec mon HPI, dans le sens où, comme mon neuropsy m'a expliqué, le HPI masque le TDAH parce que je compense pour mes lacunes. Mm-hmm. Et donc, fut un moment où je pense que je pouvais plus trop compenser avec un talent là, au niveau de ma douance et que je sentais que mes difficultés de TDAH se faisaient vraiment sentir.
Comme de quelle je savais, façon que ça se faisait sentir?
Une incapacité à finir mes examens, aussi une grande, grande fatigue en classe. J'avais énormément de misère à passer à travers mes journées. Donc, une journée d'école, là, 8 à 4, de 6 cours par jour, c'était rendu vraiment difficile de passer à travers la journée. Donc, je dormais en classe tous les jours, j'avais des mauvais commentaires de mes professeurs et je manquais beaucoup d'école. Donc, mes parents étaient quand même compréhensifs. Et vu que je réussissais super bien à l'école, ça dérangeait pas trop. Donc, je me ramassais souvent à pas faire des journées complètes puis à manquer le plus de cours que je pouvais pour essayer de récupérer mon énergie.
On a évoqué la surcharge cognitive dans l'épisode 1. Dans le cas de Blanche, c'est cette fatigue extrême et inexpliquée qui a été le premier déclencheur de sa quête.
J'ai fini par en parler à mon médecin parce que j'essayais de trouver c'était quoi mon problème. Je savais qu'il y avait un problème, que c'était pas normal que je sois autant épuisée à tous les jours, même en ayant dormi. Donc, je me demandais si je faisais pas de l'apnée du sommeil, de la narcolepsie. Genre, je me documentais puis j'en parlais à mon médecin. Puis j'étais très insistante parce que je disais vraiment comme, il y a un problème. Puis mon médecin, il dit, ben non, t'as pas ces maladies-là, voyons. Genre, je l'aurais vu, je le sais. T'sais. Mais moi, je disais, OK, mais il y a un problème alors, tu sais, c'est pas normal. Puis on peut rajouter à ça aussi que j'ai eu des épisodes dépressifs. J'ai pris des antidépresseurs, donc je pense que l'errance de mon mal-être un peu était plus tournée vers ça.
Ils ont plus vu le symptôme, peut-être. Est-ce que tu as l'impression que cette dépression-là a été causée peut-être un peu par ta neurodivergence non diagnostiquée?
Oui, maintenant je me dis que probablement.
L'éventail des traits de la neurodivergence qui peuvent entraîner d'autres problèmes est assez large. L'hypersensibilité, ça peut entraîner des burn-out, des dépressions, de l'anxiété, mais aussi un paquet d'autres symptômes physiques, comme des problèmes digestifs. Les rigidités peuvent devenir des troubles alimentaires ou des troubles obsessionnels compulsifs. Les difficultés sociales peuvent provoquer de l'isolement. Et ça peut être complexe de régler tous ces enjeux-là individuellement quand on ne sait pas qu'on est neurodivergent et qu'il y a une source commune qui relie possiblement tous ces symptômes-là ensemble. C'est ça qui peut faire en sorte que les femmes neuroatypiques accumulent souvent plusieurs hypothèses diagnostiques ou même plusieurs diagnostics dans leur vie sans qu'on fasse le lien avec la neurodivergence. Cette quête sans fin de réponses, quand aucune semble expliquer complètement ce qui nous fait souffrir, c'est ce que plusieurs appellent l'errance diagnostique. On cherche des façons de se comprendre, d'aller mieux, mais on ne sait pas par où commencer, ni comment. Ou bien on essaie des traitements, de la médication, des thérapies, puis ça ne fonctionne pas. parce qu'on n'a pas trouvé la source du problème.
Ma médecin de famille voulait me donner des antidépresseurs, puis moi, je voulais pas me mettre là-dessus.
Véronique, 45 ans, nous résume les nombreuses années où elle a cherché à comprendre ses difficultés à conjuguer sa carrière et sa vie de famille.
Je me suis jamais vraiment, on va dire, auto-diagnostiquée. Je savais que j'avais quelque chose, mais je savais pas quoi exactement. Quand j'allais voir mon médecin de famille, à chaque fois que j'essayais de la porter, elle me disait « Non, c'est de l'anxiété, t'en as beaucoup sur tes épaules. » Puis j'en ai vu des psychologues, jamais c'est venu.
Quand t'arrivais dans le bureau puis que ça filait pas, là, qu'est-ce qu'on te disait avant ce diagnostic-là?
Ben, on me disait beaucoup que... un très drôle, c'est souvent j'avais tendance à être essoufflée parce que je parlais. Puis tu sais, j'étais comme tout le temps comme essoufflée, comme une urgence de vivre. Alors on me disait j'étais asthmatique, tu sais. Puis j'ai passé le test pour le l'asthme, j'avais aucune asthme. Je me suis aussi fait dire oh tes hormones, on va te mettre sur un stérilet. Mais tu sais, c'était surtout l'anxiété. Tu sais, je me rappelle d'avoir un emploi qui était quand même assez important, là. Puis je gérais tout, tu sais, mais je me couvrais moi-même, mais jusqu'à me brûler parce que je voulais tellement être comme tout le monde. Je voulais tellement réussir. J'aurais voulu que quelqu'un me prenne en charge, mais en même temps, j'étais trop honteuse de qui j'étais.
De demander de l'aide aussi.
Ah, peut-être. Mais vraiment, il faut une capacité pour demander de l'aide. Il faut une force, il faut une confiance en soi. Mm-hmm. Mais quand t'en as pas, tu vas pas le demander parce que c'est montrer ta faiblesse. Fait que c'est sûr que ça ressemblait à l'anxiété. Oui, c'est vrai que j'étais hypersensible. Je me faisais dire que j'étais fleur bleue. T'sais, que je me rappelle en plein meeting me faire dire « Pourquoi tu pleures? » là, parce que, mais moi, c'était comme les émotions étaient intenses. Puis j'ai pas, comme je dis, j'ai jamais pensé avant la mi-trentaine que c'était un TDAH.
Jusqu'à l'effondrement, dans le fond.
Oui, là, tu pouvais juste plus. Là, c'était trop, là. Ça faisait trop longtemps que je compensais. Puis c'est là que j'étais... toute ma pyramide a tombé. Tu sais, le couple, l'emploi, parce que là, j'arrivais plus à en tenir dans mes mains. Là, c'était trop. Mais je me suis rendue là, justement, parce que j'étais capable. Fait que, tu sais, il y a des forces et des faiblesses. Mais c'est comme, mais pourquoi personne l'a vu? Parce que j'étais une fille, parce que justement j'étais fonctionnelle, parce que j'ai compensé. Tu sais, c'est comme si je roulais en tercel avec un moteur de Ferrari, puis qu'à chaque fois, j'y arrivais au bout, mais que je tenais la roue d'une main, fait qu'à un moment donné, c'est fatigant. Ma médecin de famille était pas dans le champ quand elle me disait que c'était de l'anxiété. Mais
c'est une conséquence.
Mais si on mettait de la bonne lunette, puis on voyait la distinction entre les deux, peut-être que l'enfant qui peut en ressentir de l'anxiété, mais qui pourrait passer pour un TDAH, ou justement, s'il y a un parent qui n'est pas diagnostiqué, puis qu'il est dans un milieu où est-ce qu'il manque de structure, des fois, il faudrait peut-être une loupe à la place d'une lunette.
Véronique a raison. Mais il faut comprendre que pour les professionnels, c'est un gros casse-tête de démêler tout ça. Autant pour l'autisme de niveau 1 que pour le TDAH.
Est-ce que parfois vous n'êtes pas certaine à 100% par exemple d'un diagnostic, mais que les troubles associés qui sont présents vont vous permettre de trancher plus facilement?
Est-ce que des fois je suis pas certaine totalement? Oui. Oui, tout à fait, même si on a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de le comprendre, on ne le sait pas. Des fois, c'est qu'on peut aussi vouloir dire, OK, mais... Est-ce que c'est l'anxiété qui est tellement importante et envahissante? Si on apaise, que ce soit psychothérapie, en pharmacothérapie ou autre, cette anxiété-là, est-ce qu'on va mieux voir en dessous? Il y a une médecin, à un moment donné, qui dit, tu sais, des fois, l'anxiété, Eliane, c'est un peu comme de l'enflure, là. T'as une blessure, puis c'est super enflé. C'est quoi qu'il y a en dessous? C'est une petite coupure, c'est une infection, c'est un bouton, c'est quoi le problème? Alors, des fois, un trouble associé peut nous empêcher de voir en dessous ce qu'il y a. Donc, c'est vrai, souvent, on va voir des gens qui sont sur le spectre de l'autisme qui ont différentes conditions associées. Puis là, je peux toutes les traiter individuellement. Et c'est là où dire, est-ce que j'ai des problèmes digestifs, sensoriels, sociaux, anxieux, auditifs? OK, ça fait beaucoup, mais c'est tous des symptômes qui sont reliés au fonctionnement sur l'autisme. Mais ça se peut aussi qu'il y ait réellement des troubles associés, des troubles des conduites alimentaires, troubles d'anxiété généralisée, troubles de personnalité limite, TDAH, dysorthographie, trouble moteur, trouble de langage, name it, là, il n'y a pas d'exclusion.
Gilles de la Tourette.
Gilles de la Tourette, déficience intellectuelle, haut potentiel intellectuel. Je veux dire, alors, tout ou presque peut être associé à ça. Alors, chaque personne peut avoir une constellation, ça fait beaucoup, mais y a-tu vraiment 6 troubles isolés ou finalement, ce n'est pas 6 troubles isolés, ils font partie du même truc, un peu sous le même parapluie, sous le même chapeau.
Dans la constellation des troubles associés, ceux des conduites alimentaires me touchent particulièrement. Donc, j'aimerais ça qu'on s'y attarde un peu. La psychologue Isabelle Hénaud nous a d'ailleurs informé que, selon une étude récente, jusqu'à 30 % des femmes autistes auraient un trouble des conduites alimentaires. Selon l'Institut national de santé publique des États-Unis, plusieurs études suggèrent que les personnes autistes et TDAH seraient plus susceptibles d'en développer un, que ce soit l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie ou le trouble d'évitement et de restriction alimentaire.
Bien, le fait de manger 3 repas par jour, c'est un défi parce que j'ai plein de sensibilités liées aux textures de la nourriture et au goût. Mais c'est surtout que si j'ai envie de manger quelque chose, il y a des bonnes chances que tout ce qui n'est pas cette chose-là sur le moment me dégoûte totalement et que je sois incapable de le manger. Et c'est même pas lié à... Dans la vie en général, je peux pas manger ça, mais là, en ce moment, j'ai pas envie de manger ça. Et si j'ai pas possibilité de manger la chose que je veux manger, je préfère pas me manger. Laisser ouais, mourir de faim, ne pas manger, sauter le repas. Parce que je suis bloquée, puis je peux manger cette chose-là ou rien. Et aussi, ça peut arriver... Ah, tout me dégoûte en ce moment, donc je mangerai pas.
Ah, est-ce que ça a été investigué? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le lien avec ça, puis la neurodivergence? Comment ça s'est passé, ça, quand t'as
Alors,
découvert
non,
ça?
Parce que moi, j'ai vu des médecins depuis bien avant mon diagnostic lié à ça, à ce problème que j'ai, et ça tourne toujours autour du médical, là, de genre, ah, t'as un côlon irritable, blablabla. Mais non, ça a vraiment pas été... adressé. J'ai vu une nutritionniste aussi, mais encore là, c'était vraiment tourné sur les symptômes médicaux. Et là, j'entre dans l'âge adulte et c'est quelque chose qu'il faut que je prenne en compte, que je vais devoir me faire à manger pour le restant de mes jours. Et ça me terrifie que j'aimerais vraiment ça, travailler sur ce problème-là. Donc, je pense que maintenant que j'ai mon diagnostic, ça serait peut-être pertinent que je retourne investiguer là-dessus et que je mentionne mes hypersensibilités et la neurodivergence, et peut-être que mon problème serait mieux adressé. Je l'espère, en tout cas, parce que oui, c'est sûr que moi, je suis motivée de bien manger dans ma vie plus tard, puis ça va être sûrement moins difficile le plus que je vais me faire à manger et que je vais avoir probablement dans mon frigo les choses que j'ai envie de manger.
Exactement.
Que j'aime découvrir un peu les recettes que je sais qui me font vraiment sentir bien, qui me donnent pas de symptômes de mal de ventre, mal de cœur. Ça diminue un peu l'appréhension de manger certaines affaires.
Parce que ça aussi, t'as beaucoup mal au ventre.
Oui, oui, j'ai des vrais symptômes physiques tout le temps liés à la nourriture, puis ça fait juste renforcer le sentiment de figer au moment où il faut que je mange, si j'ai peur de symptômes potentiels. Donc presque tellement de nourriture qui me donne mal au ventre. Qui vont me donner mal au cœur, donc là, peur de vomir, tout ça.
Je comprends vraiment ce que Blanche vit. Moi aussi, j'ai toujours eu mal au ventre. Non seulement j'ai des souvenirs très vifs liés à ça, mais j'ai aussi pu les corroborer en consultant mes dossiers médicaux ou en parlant avec ma famille. Et oui, c'est possible que la neurodivergence soit partiellement en cause dans ces problèmes-là.
Pour certains troubles neurodéveloppementaux, il y a plus d'enjeux d'hypersensibilité et on sait que possiblement tout le système gastro-intestinal, par exemple, ne fonctionne peut-être pas exactement de la même façon. Il pourrait y avoir plus, c'est pas différent, là, c'est pas des extraterrestres du tout, mais pour être plus sensible ou plus de troubles gastro-intestinaux, plus d'inflammation. Alors, est-ce que c'est une hypersensibilité à un stimulus normal ou il y a un enjeu ou une maladie peut-être réelle du système digestif ou du système gastro-intestinal. Alors, ça peut amener la personne, un individu X, en surcharge sensorielle, des fois parce qu'effectivement, son seuil de détection est vraiment bas puis elle se sent agressée par des stimuli, mais aussi peut-être parce que son corps à l'intérieur ne les traite vraiment pas de la même façon, là.
Pour certaines personnes, comme pour Blanche, les enjeux autour de l'alimentation peuvent donc prendre source dans les rigidités ou l'hypersensibilité. Pour d'autres, ça peut venir de l'impulsivité ou d'une gestion difficile des émotions. C'est ça qui se passe avec Milka, qui dit compenser les émotions négatives par l'excès de nourriture.
Le truc, c'est que je fais de l'hyperphagie. Okay? Donc, l'hyperphagie, c'est un trouble alimentaire. Donc, il y a des crises où tu manges vraiment beaucoup. Puis, tu te sens mal.
La culpabilité.
Donc, là, tu te sens coupable d'avoir mangé. Mais c'est quand je vis des émotions qui sont très négatives ou je vis beaucoup de stress, c'est là que ça va arriver. Donc là, qu'est-ce qui est accessible? Ben, il y a de la nourriture, puis l'effet, il est tout de suite. La nourriture, c'est la dopamine tout de suite. Là. J'en prends, puis après, je me sens mal. Encore plus mal qu'avant. Moi, je pensais que j'étais bipolaire à un moment aussi. Là. Puis quand j'avais discuté avec la médecin, c'était une médecin spécialiste de TDAH à l'adulte aussi, elle disait qu'il y a une proportion des... en fait, je ne sais pas les statistiques exactes, mais il y a une proportion des gens qui font de l'hyperphagie qui sont TDAH. C'est comme hyper relié, parce qu'il y a de l'impulsivité plus. Là. C'est comme je ne réponds plus de moi.
En plus de leur propre regard sur elles-mêmes, il y a beaucoup de femmes neurodivergentes, comme Milka ou Véronique, qui se sont tellement fait critiquer qu'elles en sont venues à développer beaucoup de culpabilité.
Je me faisais dire que j'étais trop intense, que j'étais bordélique, que j'étais si...
De critique,
tu sais, je me disais, hey, je vais écrire un livre, là, puis ça va être écrit dessus, je suis pas folle, tu sais. Quelqu'un m'avait déjà dit, en fait, un ancien patron m'avait déjà dit, « Ah, t'es tellement pas organisée. Je le sais, ce que je fais pas correct. Tu passerais pas 24 heures dans mes souliers. T'sais, tu sais pas tout ce que ça me demande. » Mes deux parents avaient des traits TDAH aussi. Mon père, surtout, a été beaucoup dans la consommation. Ça a été malgré qu'il avait un bon emploi, malgré qu'il venait d'une bonne famille, puis a terminé avec un suicide à l'âge de 40 ans. Fait que, tu sais, je sais qu'aujourd'hui, si je prends un certain recul, quand je regarde les conséquences du TDAH sans traitement, ben, tu sais, quand mon père essayait de me calmer parce que j'étais en crise, parce que j'étais trop émotive, puis que ça finissait par, tu sais, un geste de... Parce que lui, probablement, qu'il gérait pas cette pression-là, hein, parce qu'on le sait, facteur moins de sommeil, plus de stress, c'est pire pour le TDAH.
Ça fait ressortir
tous les traits sont là. Fait que, tu sais, moi, je me souviens même d'avoir crié après mes enfants parce que, justement, quand ça débordait ou quand c'était trop... Mais je me voyais mon père, je voyais ma mère, puis j'aurais aimé mieux être une maman traitée, tu sais, dans les premières années de vie de mes enfants. Quelqu'un avec un diagnostic de TDAH, c'est comme si au lieu d'avoir deux rames, t'en as juste une. Fait que tu vas des deux bords, puis t'arrêtes pas, fait que la fatigabilité, puis je suis sûre que le taux d'épuisement professionnel doit être encore plus fort chez ces personnes-là. On va dire, ah, bien, il y en a plus aujourd'hui. Non, je pense pas qu'il y en a plus. Il était juste pas diagnostiqué. C'était la santé mentale, toujours.
C'est souvent les diagnostics de bipolarité chez les femmes. Ouais. C'est souvent un TDAH ou même un trouble du spectre de l'autisme.
Même, tu sais, il y en a qui vont dire, ah, les TDAH, c'est un narcissisme parce qu'ils vont parler.
Oh, oui.
C'est tout centré sur eux. C'est toujours comme ça. Mais non. Même moi, j'ai eu des anciens conjoints dans certaines relations, puis tu sais, qui m'ont déjà crié que j'étais TPL. Et je me rappelle d'arriver d'être débarquée dans la psychologue puis dire, tu sais, est-ce que je suis narcissique, tu sais? Puis là, elle m'a dit, non, tu sais, les personnes qui le sont, ils se posent même pas la question.
Exact. Moi aussi, à un moment donné, c'était narcissique, à un moment donné, c'était bipolaire, à un moment donné, c'était TPL. J'étais convaincue, mais c'était par rapport à ce que je recevais comme commentaire.
Oui. C'est ça qui marque.
Ce témoignage-là, il me bouleverse vraiment. Je trouve ça perturbant qu'on soit si encline en tant que femme à nous culpabiliser par rapport à nos symptômes ou à nous croire folles. Il faut aussi l'admettre, il y a le sexisme systémique et le sexisme médical qui ont biaisé les données pendant des années. Heureusement, c'est en train de changer. Mais Dr Chevrier nous explique pourquoi, malgré les nouvelles avancées de la neuroscience en lien avec le profil féminin, puis malgré toute la bonne volonté des spécialistes, c'est un domaine qui présente quand même ses défis.
La psychologie, la santé mentale, je veux dire, c'est une science molle, c'est pas une science dure, c'est pas... là, c'est cassé, il est cassé. T'sais, voici, j'ai la radiographie. Puis c'est pas qu'être radiologiste, c'est facile non plus, mais c'est clair. Nos critères diagnostiques, là... Oui, on les compte, là. Mais il y a une subjectivité. Il y a une évaluation de la souffrance, des impacts. Alors, tout ça peut faire en sorte que ça devient confus, ça devient flou. Si on consulte en psychiatrie, la personne a sa lunette, en psychologie, en neuropsie, et le professionnel vient avec son background. Il y a possiblement des gens qui ont reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite que c'était pas ça, qui avaient peut-être associé autre chose aussi ou autre chose en priorité, par exemple l'autisme féminin. L'inverse est quand même vrai. Puis là, y a, même si c'est relativement nouveau de parler d'autisme au féminin, tout ça, ça fait quand même quelque temps. Et là, des fois, on a en consultation des gens qui disent « J'ai reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite, mais, je me reconnais pas. » Ou finalement, ben peut-être que je suis sur le spectre de l'autisme. Et non, il n'y a pas de trouble de spectre de l'autisme. C'est long. Faire une évaluation, quand c'est simple, c'est simple. Là. Ça ne sera pas compliqué pour moi. Je vais aller voir les signes gros comme ça, puis on pourrait faire... je le sais, qu'est-ce que t'as? Mais quand c'est léger, quand j'ai compensé, quand j'ai appris à tourner les coins ronds, à masquer, que j'ai d'autres troubles associés, là, c'est démêler tout ça, qui devient plus compliqué, plus long. Je me souviens d'une jeune que j'ai vue à 8-10 ans qui avait clairement des problèmes d'anxiété, de TDAH, puis je l'ai revue plus tard, puis je dis, mais elle est sur le spectre de l'autisme, mais c'est...
C'était évident pour vous à ce moment-là.
Je l'ai vue à l'âge adulte, fin d'adolescence, enfant, et ce n'était pas évident pour moi. Bien, il y a presque 10 ans qui se passent entre les deux, puis je me justifie pas, mais notre connaissance et notre expertise ont évolué en 10 ans, et je me dis, mais il y avait effectivement des signes petites qu'on n'interprétait pas de la même façon. On avait été plusieurs aussi à interagir avec cette personne-là, professionnelle. Puis, ben, c'était compliqué pour plein de raisons. Puis là, plus tard, on est comme, ouais, mais c'était comme toutes des signes.
C'est exactement ce qu'a vécu Andréane. À 12 ans, on lui a diagnostiqué un TDAH et des troubles associés de dyslexie et dysorthographie. Ça l'a soulagée sur le coup. Elle a eu certains accommodements à l'école et ses résultats se sont améliorés. Mais ça n'a pas duré. Après quelques années, Andréane a réalisé qu'elle n'avait pas encore tous les morceaux de son profil atypique.
C'est vraiment une fois que je suis sortie du pensionnat puis je suis rentrée au cégep que là, il y a eu un gros clash parce que je suis passée du hyper structuré. Puis j'étais arrivée dans un cégep de 1000 quelques personnes. C'était... avec le recul, vraiment la perte de structure qui a causé toute cette détresse-là.
Les trois premiers diagnostics, c'était à 12 ans, c'est ça?
Oui, j'avais 12 ans les trois premiers, puis là, à 16 ans, sont embarqués.
Anxiété,
dépression.
Docteur Isabelle Hainaut, psychologue, explique que les épisodes d'anxiété et de dépression surviennent souvent pendant des périodes de grands changements.
L'anxiété est présente chez 80-85% des femmes autistes. Anxiété sociale, ça peut être de l'anxiété générale ou de l'anxiété de performance. Ne pas vouloir se tromper, de bien faire les choses, d'être perfectionniste. Fait que là, je suis en transition. Par exemple, une adolescente qui dit « Je quitte le secondaire, je m'en vais au cégep. J'ai fini le cégep, je veux me trouver un appartement. » Tous ces changements, tu sais, moi j'appelle ça transition dans mon jargon, ça augmente l'anxiété parce que tout d'un coup, mes repères sont plus les mêmes. Et quand l'anxiété augmente, c'est comme si les traits émergeaient davantage. Tout ce qui était camouflé ressurgit.
À la fin de mon secondaire, mon médecin de famille, qui était mon médecin de famille depuis toujours, m'a dit « Je vois plus clair dans le dossier. »
Elle voyait plus clair.
Elle était comme plus capable de défaire qu'est-ce qui est l'anxiété, qu'est-ce qui est médical, qu'est-ce qui est ici, qu'est-ce qui est ça. Fait qu'elle m'a transférée, elle m'a dit « Je vais te transférer à l'hôpital, en pédiatrie, va voir un nouveau médecin. » Fait que premier rendez-vous, j'y vais seule. Puis je dois avoir 16 ans, ouais. Puis je me souviens juste d'essayer d'y expliquer tout ce qui se passe dans ma tête puis de pleurer ma vie parce que là, je suis comme plus capable que tout le monde fasse « c'est dans ta tête, c'est ci, c'est ça ». Puis je suis comme « non, non, vous comprenez pas. C'est pas juste que je suis fatiguée ou que je fais pas assez d'exercice. Mentalement, je sais qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, tu sais. » Puis là, elle me revient, puis qu'elle me regarde, elle fait « qu'est-ce que tu veux? » Puis moi, je me souviens de dire clairement « je veux juste qu'on me dise que c'est pas dans ma tête. » Qu'on arrête de me dire que c'est pas vrai. Puis moi, j'ai dit, ben, tu me fais une recommandation, puis je m'en vais au privé faire une évaluation en TSA. Puis elle était comme, OK. Tu sais, elle m'a posé des questions, puis je pense pas qu'elle non plus, elle me croyait, mais à le fait qu'elle demande.
Si tu avais eu le diagnostic d'autisme là, avant, là, est-ce que tu penses que tes médecins y auraient compris ce dont tu avais besoin?
Oui, parce qu'on se serait pas rendu là, en fait. Si j'étais arrivée au cégep avec un diagnostic, la structure, j'aurais pu la mettre en place avant. Le support qu'on m'a donné à la fin, parce que là, j'étais en situation de crise, aurait été là dès le départ, fait que je me serais pas ramassée en situation de crise.
Je reviens à la question de base, le diagnostic, quand, pourquoi, c'est le plus tôt possible pour éviter des errances diagnostiques, éviter des souffrances, pour ensuite les aider dans les plans d'intervention, les plans de traitement pour ce qui arrive autour, que ça soit dépression, anxiété, troubles des conduites alimentaires, n'importe quoi d'autre qui vient avec. Et pour moi, c'est ça qui est important, le plus tôt et le mieux, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. J'avais une femme juste avant Noël, elle avait 70 ans. Elle me dit, Isabelle, est-ce que ça vaut la peine qu'on fasse tout ça? Fait que là, on discute ensemble. Je dis, bien sûr, ça vous appartient là, comme démarche. Mais l'idée, c'est de se comprendre, d'enfin d'avoir ce que j'appelle la petite pièce de casse-tête qui manquait. Parce qu'elle a reçu toutes sortes de diagnostics toute sa vie en se disant, coudonc, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis folle? C'est ça qu'elle m'a dit. Puis ça m'a beaucoup touchée. Elle est loin d'être folle. Je dis, il n'est pas trop tard. Elle est grand-maman maintenant. Puis elle me dit, en fait, c'est que je vais pouvoir l'expliquer, elle dit, à ma fille. Parce qu'elle dit, on a eu des moments où on ne se comprenait pas. Parce qu'elle dit, j'ai certaines rigidités. Des fois, c'est un peu tout blanc, tout noir. Il y a des fois où j'arrivais peut-être pas à comprendre ses besoins, pas par manque d'empathie. Et là, peut-être qu'enfin, on va pouvoir se rapprocher. Puis c'est pour ça que je disais, il est jamais trop tard. Parce qu'à la fin de l'entrevue, quand j'ai confirmé son diagnostic, elle pleurait. Puis j'en avais des frissons parce qu'elle pleurait pas de tristesse. Elle me disait, je me sens soulagée. Enfin, je vais pouvoir mieux me comprendre. M'aimer, m'accepter, puis peut-être renouer dans des relations où j'ai peut-être eu des maladresses, des incompréhensions, mais c'est que là, on a l'information qui manquait, la petite pièce de casse-tête.
Quand je repense à la raison pour laquelle on fait ce balado-là, je repense souvent à cette femme de 70 ans que Dr. Hainaut a diagnostiquée. Pour elle, comme pour toutes les femmes qu'on a rencontrées jusqu'à maintenant dans le cadre de notre quête, le ou les diagnostics sont arrivés comme une réponse à une grande question existentielle. Donc, si on souffre, puis si on sent qu'une partie de notre identité nous échappe, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour se faire évaluer en neuropsychologie. Il y a des gens qui pensent que c'est juste une étiquette ou juste une excuse. Mais dans le prochain épisode, on va voir comment l'identification de la neurodivergence, ça a le potentiel de tout changer. Ça peut donner accès à des parties de soi-même qu'on n'avait jamais vues ou pas acceptées avant. Comme si on ajustait l'éclairage, puis qu'on se voyait enfin apparaître.
C'est une quête. Est-ce que c'est identitaire? Je pense que pour certaines personnes, oui, honnêtement. Mmh. On veut se comprendre, on veut mettre des choses en place, parce que le but ultime, dans le sens avoir une évaluation, c'est de comprendre ce qu'on est, mais c'est aussi de dire, OK, mais je fais quoi après? C'est quoi l'étape 2, le plan de match?